Le Arras Film Festival ouvrira à nouveau ses portes pour une 25e édition du 8 au 17 novembre prochain à Arras. Pour cette occasion, on reçoit dans les studios Éric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence, pour évoquer quelques temps forts de la programmation. Éric Millot, bonjour.
Bonjour Boris.
On va parler de cette 25e édition du Arras Film Festival, donc qui se déroulera du 8 au 17 novembre à Arras. Et ben du coup, 25 ans quand même. Là, on peut peut-être parler de la date presque anniversaire.
Oui. Après, voilà, c'est la 25e édition. Les 25 ans sera peut-être pour l'année prochaine. Mais oui, c'est une grande aventure et ça fait autant que les 20 ans, c'était quelque chose. Mais dire un quart de siècle, c'est quand même. Je trouve que la date est symbolique et. Et ça fait, ça permet de voir un peu aussi tout le chemin parcouru depuis les débuts, l'avenue de Francesco Rosi, la première leçon de cinéma, le côté tourné dans toute la région, et petit à petit la construction de cet événement, donc partant de 2000 spectateurs jusqu'aux 50 000 entrées, quoi. C'est une grande aventure. En
fait. Ok, donc on va essayer de voir un petit peu, faire un panel de la programmation, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne pourra pas tout dire forcément, mais on va commencer évidemment par le film d'ouverture, donc En fanfare d'Emmanuel Courcol.
Voilà, Emmanuel Courcol, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup. On l'avait déjà accueilli il y a quelques années. Enfin, on suit bien son cinéma. C'est un film qui, dès qu'on l'a vu, on s'est dit c'est celui-là qu'il nous faut pour l'ouverture, parce que je pense qu'il a tous les éléments à la fois pour faire un beau film d'ouverture, mais aussi il est assez proche de nos valeurs, c'est-à-dire il parle du vivre ensemble, il insiste aussi beaucoup, et je trouve que c'est important, c'est le caractère essentiel de la culture dans nos vies. C'est un film populaire à la fois qui s'adresse à tout le monde et qui est porteur de ce message, du côté essentiel, puisque c'est un mot qui nous a fortement marqué il y a quelques temps lié à la crise sanitaire. Et trouver un film comme ça qui est capable de porter ses valeurs, de nous amuser mais en même temps de nous émouvoir, enfin voilà, il y a une vraie force dans le film. Et puis c'est un film qui est vraiment très lié à notre région, même s'il a des prix en Espagne, un peu partout dans le monde, en fait, d'où le caractère universel peut-être de ce film. Cette question des fanfares, cette question de, voilà, ça touche l'ADN de la région, et je trouve que c'était vraiment, dès le début, le tout c'était maintenant de réussir à pouvoir non seulement le présenter, mais être les premiers à le présenter dans la région, ce qui n'était pas évident avec une sortie le 27 novembre. D'où l'imaginaire qu'on a développé avec le distributeur du film, Diafana, de créer un grand événement à partir de l'ouverture, de la retransmettre dans plein de villes, d'organiser une tournée dans la foulée dans 14 cinémas de la région avec toute l'équipe, la fanfare, et puis de proposer un peu des avant-premières partout jusqu'à la sortie du film le 27 novembre.
Alors donc on rappelle que ce film d'ouverture sera projeté lors de l'ouverture, vendredi 8 novembre à 20h, et c'est au Casino d'Arras. Il y aura une fanfare du coup ?
Ah ben, il y aura la fanfare du film, c'est-à-dire celle de Lal.
Ok.
Et c'est pas une surprise.
Qui dit film d'ouverture, dit forcément un film de clôture, donc on va en parler, on va anticiper également, et ça, ce sera pour le dimanche 17 novembre à 19h, et toujours au Casino d'Arras, ce sera Saint-Ex.
Oui, alors il y a plusieurs éléments, le film nous a beaucoup plu, parce que c'est un film d'aventure, en fait, ça parle de la période où Saint-Ex est pilote d'avion dans la Cordillère des Andes, où il travaille pour l'aéropostale. Et voilà, c'est un film qui nous emmène loin, et je trouvais que pour terminer, c'était bien. En plus, c'est pas un biopic tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt un film qui fait de Saint-Ex le héros de ses propres aventures, en fait. Et c'est ça qu'on a trouvé très intéressant. Si on regarde bien, on peut croiser le Petit Prince. Enfin, vous voyez, quand on connaît bien l'œuvre de Saint-Ex, on va y trouver plein de choses. Puis il y a un petit lien quand même aussi avec Arras, puis Saint-Exupéry et La Volée au-dessus. Enfin, il y a un roman qui porte le nom, un de ces romans qui porte en anglais le nom d'Arras. Enfin, on trouvait que ça avait du sens. Voilà.
Film de Pablo Agüero, donc.
Oui, très bon réalisateur sud-américain, mais qui vit maintenant en France et qui. Et puis surtout un beau casting, hein, puisqu'on
Y a international quand même.
Voilà, ouais, avec
Diane Kruger et puis Vincent Cassel.
Voilà, et surtout Louis Garrel qui sera présent. Ouais. C'était un peu là qu'il fallait qu'un des acteurs soit présent. Ouais. Et tant mieux, Louis Garrel, c'est l'acteur qui joue Saint-Exupéry dans le film.
Il y a pas mal d'avant-premières également. D'abord, le premier film de Clara Luciani, jolie, qui est une chanteuse, forcément, qu'on connaît. Donc tu peux peut-être nous en parler un peu.
Oui, on est à la radio, puis je sais que vous aimez la musique, donc c'est un film musical. Genre, j'aime on pourrait dire une comédie, mais c'est vrai qu'il y a des moments drôles, mais c'est surtout un film qui parle d'amour, qui parle de la différence, qui parle de la rencontre, qui voilà, c'est un grand film d'amour en fait, avec plein de couples et plein de qui se croisent, qui se retrouvent, qui se séparent, et c'est un grand moment musical avec des chansons et une musique faite par Alex Baupin.
Ouais.
Et un super casting, effectivement, on parle de Clara Luciani, mais
il y a José Garcia,
voilà, William Lakeville qui viendra présenter le film malgré qu'ils sont en tournage.
Vincent de Dienne.
Vincent de Dienne qui est formidable dans le film d'ailleurs. Voilà, c'est, enfin, comme tout, c'est vraiment super presque.
Ouais, bah donc du coup, on découvrira.
Et c'est un film très beau esthétiquement. Je trouve que c'est ça la grande force, c'est-à-dire que les décors, les costumes, enfin voilà, il y a un soin très particulier qui est donné à l'environnement des chansons.
Et on découvrira donc les premiers pas en tant que comédienne de Clara Luciani. Alors, autre focus également sur ses avant-premières, Planète B de Aude Le Rapin. Alors ça, c'est un film qui m'intrigue.
Oui, alors si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les dystopies, si celui qui aime la série Le Prisonnier, je ne sais pas si on se souvient, qui s'en souviennent, voilà, avec ce personnage qui est prisonnier dans un village et puis la boule blanche qui le poursuit. Enfin voilà, on est un peu dans tout ça en fait. Et c'est un film qui parle d'un monde futur mais qui ressemble pas mal au nôtre. C'est un état tout puissant et il y a quelques rebelles qui tentent de bousculer un peu l'oppression qui se développe. Et voilà, ça pourrait. On est dans un futur proche en fait qui n'est pas très éloigné du nôtre. Mais on a un film très original et je trouve que fait une très belle réalisatrice. Voilà, c'est fait par une femme et il y a aussi un très beau casting dans le film.
Autre film également, cette fois-ci un film d'animation que j'attends avec impatience, c'est La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. D'ailleurs, je crois que c'est son premier long métrage en animation, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ça qui est bien chez Michel, c'est qu'il aime expérimenter les choses. Il n'est pas enfermé il aurait pu s'enfermer dans un type de film à la OSS 117, en fait. Même si je trouve qu'il est très bon dans la pastiche, en fait. Là, on n'est pas du tout dans la pastiche, on est dans un film très émotionnel, je dirais, très impressionnant d'ailleurs pour le moment, où un enfant est jeté d'un train qui s'en va vers Auschwitz, et les parents arrivent à le jeter, et il est récupéré par des paysans, et là c'est des paysans polonais. Alors il y a le mari qui est très homophobe en fait, très raciste, et il y a l'environnement qui est montré, voilà, et comment petit à petit il va apprendre à aimer cet enfant. C'est un film très beau et très beau esthétiquement aussi.
Ah ouais, le graphisme est carrément inspiré à la Courbet, peinture du 19e siècle aussi. Donc, bonne découverte, j'espère. Et puis, on verra que le public, normalement, devrait s'y retrouver. Et puis, enfin, dernier focus sur les avant-premières, Un ours dans le Jura avec Franck Dubosc. Ouais, ça, et deux Franck Dubosc, parce que je crois que c'est son premier film aussi ou pas.
Non, il a fait d'autres films. Oui. Il a fait plutôt des comédies jusque-là, et là on est dans une comédie, mais on est dans une comédie d'humour noir, je dirais. On est dans une comédie policière en fait, et il faut aimer les personnages un peu décalés. On est beau, si vous aimez Fargo, c'est un peu dans cet esprit-là. On n'est pas loin de l'esprit des frères Coen, et vraiment, franchement, c'est une très très bonne surprise. C'est vraiment un film où on passe un excellent moment en fait, et avec Benoît Poulvord et Laure Calamy qui sont assez irrésistibles à ses côtés en fait.
Et puis enfin, Mon Inséparable de Anne-Sophie Bailly, qui fait beaucoup parler en ce moment, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots aussi sur ce film ?
Oui, après, c'est un très beau film, très, très émotionnel, sur une mère qui s'occupe de... Enfin, voilà, ça parle d'une mère qui a un enfant handicapé, mais qui est grand, il a une trentaine d'années, et puis qui a envie de vivre une histoire personnelle, de se lancer dans une propre vie, y compris amoureuse. Et elle a du mal, comme tous les parents, elle a du mal à couper le cordon et à voir que son fils peut vivre cette vie. Et c'est tout ce moment. Donc voilà, ça parle de cette relation, mais ça peut être, en fait, c'est la problématique de beaucoup de parents, en fait, au moment où leurs enfants décident de s'en aller, de vivre leur propre vie. Et Laure Calamy est assez émouvante dans ce personnage. Et c'est un film tourné aussi dans la région, notamment vers Dunkerque, un peu en Belgique aussi. Voilà, c'est un très joli film.
On va parler aussi des invités d'honneur. Cécile de France.
Une vieille envie, un vieux désir, je dirais. Ça fait longtemps qu'on voulait l'inviter, Cécile de France. On l'a plusieurs fois, mais ça collait pas. Et parce que pourquoi Cécile de France ? Parce qu'elle est, bon, déjà elle est belge. Il faut se rappeler. C'est pas, même si elle tourne beaucoup en France, même si elle vit en France. Elle a cette simplicité, ce côté je vais vers les gens, enfin qui semble ça, mais pourtant c'est une grande comédienne. Moi j'ai revu beaucoup de films pour préparer la rétro, et c'est vraiment quelqu'un de voilà qui a une palette, un registre de jeu qui est assez impressionnant. Et donc on l'a invitée, on a profité qu'elle avait un film qui s'appelle Par amour, qui va se présenter en avant-première à 21h le samedi 9, et qui dit beaucoup de choses en fait, et sur lequel elle s'est beaucoup impliquée. Au-delà de son jeu de comédienne, elle s'est impliquée dans l'écriture avec la réalisatrice. Enfin voilà, on la sent très très concernée par ce film, et donc en profiter pour l'accueillir et passer une journée avec elle. Enfin, offrir aux spectateurs la possibilité de passer une journée avec elle, avec une masterclass, avec découverte d'autres films.
Sandrine Kiberlin, également avec une leçon de cinéma, j'imagine, qui se passera toujours à l'Université d'Artois.
Non, elle est...
Ça change.
Bah oui, il n'y a que le vendredi à l'Université d'Artois.
Ah, d'accord.
Donc, Cécile de France, c'est au Casino. Elle, ça sera au Mégarama, dans la salle 1. Sandrine Kiberlin, là, c'est un coup de cœur pour le film, en fait, pour Sarah Bernard. Bah, c'est une actrice qu'on adore. On l'avait déjà accueillie, d'ailleurs, pour son film en tant que réalisatrice. Et là, on a découvert son film. Et on est,
Sarah Bernard,
qui était la première grande star de l'histoire du théâtre. Hein, et donc, voilà, et qui a une carrière, enfin, c'est une Française, mais qui a une carrière internationale. C'était incroyable. Et elle prend, quelque part, on a trouvé que le film était déjà une leçon d'actrice, en fait. C'est une actrice qui regarde une actrice, et je trouvais que c'était fascinant. Et on est vraiment trouvé le film vraiment formidable, et du coup, on l'a invité, et on a dit, comme le film parle beaucoup de ce qu'est une comédienne, profitons-en pour faire quelque chose autour d'elle, la masterclass, elle va présenter à nouveau son film qu'elle a fait, parce qu'elle est aussi réalisatrice. Hein. Mm-hmm. C'est ça aussi peut-être la particularité de Sandrine Kiberlin, c'est qu'elle a
cette fille qui va bien.
Voilà, c'est l'œil de la réalisatrice aussi qui est intéressant.
Et d'ailleurs, il y avait eu un article paru dans Télérama où elle expliquait justement qu'elle n'avait pas regardé des choses qui concernait Sarah Bernard. Elle a préféré se laisser inspirer directement par sa propre expérience en tant qu'actrice, et ça peut être très intéressant pour le public.
Oui, parce qu'elle n'est pas dans l'imitation, elle a recréé le personnage en fait.
Miki Manojvitch, si je le prononce bien, alors ça c'est une référence aussi pour donc une leçon de cinéma cette fois-ci. Là, ce sera à l'Université d'Artois, l'amphithéâtre Churchill, le vendredi 15 novembre, voilà.
Voilà, tu la traditionnelle leçon de cinéma du vendredi après-midi.
C'est que il a tourné pas mal avec Emir Kusturica.
Oh oui, bah oui, c'est l'acteur principal des films de Kusturica, notamment les plus célèbres, hein, Underground, Papa est un voyage d'affaires, qu'on pourra retrouver dans le festival. Underground étant la version, pour la première fois, la version intégrale du film, c'est-à-dire 2x2h30, et puis d'autres films, parce que c'est une carrière, hein. Enfin, faut s'imaginer, parce que quand on regarde sa carrière, c'est quelqu'un qui a connu toute cette période. Il était enfant dans les années 50, ses parents étaient comédiens, il a travaillé avec les plus grands. Les plus grands en Yougoslavie, mais il a également une carrière internationale, parce que les événements ont fait qu'il a quitté un moment la Yougoslavie. Il a vécu en France, il y a d'ailleurs des liens avec la France, hein. Il parle bien français, son père, sa grand-mère était française, même si lui il est serbe, monténégrin, croate, enfin, c'est vraiment ça qui est fascinant. Et il faut s'imaginer que c'est quelqu'un qui est une star immense dans les Balkans. Il ne peut pas sortir dans la rue sans qu'on se précipite pour lui demander des autographes. Il est le premier artiste dont la compagnie aérienne Air Serbia a donné le nom à un de ses avions. Après Djokovic ou Stankovic, le footballeur. Enfin voilà, c'est le premier artiste à qui on a donné. Voilà, ça donne un peu l'ampleur du personnage, qui est en plus quelqu'un de très humble et très, très, très charmant.
Alors, on ne va pas dévoiler tous les 9 longs métrages qui seront à découvrir donc en exclusivité, comme chaque année, en présence des réalisateurs de la compétition européenne, hein, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a une compétition européenne qui est organisée sur le Arras Film Festival tous les ans. Moi, je voulais juste faire un petit focus quand même avec le film Honeymoon de Zana Ozrina, qui parle de ce qui se passe évidemment en Ukraine et l'invasion russe.
La particularité, c'est que c'est un des rares films, hormis les documentaires, hein, bien sûr, évidemment, mais c'est l'un des rares films de fiction qui a été tourné en Ukraine. Ça a été tourné à Kiev, dans un appartement. Et donc, C'est, ça raconte, alors c'est minimaliste, hein, ça raconte un couple, ils fêtent sa crémaillère, ils sont jeunes, ils ont envie de vivre, ils savent qu'il y a de la tension, et puis le lendemain matin, les chars russes sont autour d'eux, et donc ils ne savent plus quoi faire, en fait, ils sont coincés dans leur appartement. Donc ça parle à la fois du couple, et ça parle de. Voilà, et ça, c'est un vrai projet de cinéma, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses dans la bande-son, enfin, c'est un film assez émouvant. Moi je suis content de pouvoir. Enfin, on était vraiment heureux de pouvoir le présenter au festival parce que. On a un attachement fort pour le cinéma ukrainien. Juste avant l'invasion, 3 mois avant l'invasion, on a invité quand même plein de réalisatrices et comédiennes qui étaient venues parler de leur cinéma. Et je trouvais que ça nous touche beaucoup de pouvoir présenter ce film en compétition. En fait.
Et on rappelle d'ailleurs que pour cette compétition, il y aura évidemment le grand prix du jury, l'Atlas d'or, le prix de la mise en scène, l'Atlas d'argent, le prix du public également, puisque le public peut voter aussi, le prix de la critique, mais aussi le prix Regard Jeune. Hein, qui rassemble évidemment des élèves
de lycée, d'adoption,
des Hauts-de-France. On va parler du jury, parce que voilà, pareil, là c'est le retour de Dominique Abel et Fiona Gordon, co-président du jury. Hein, donc cette fois-ci, tu peux nous dévoiler un petit peu qui sera dans ce jury ?
Alors, Dominique Abel et Fiona Gordon, quand même, c'est vrai qu'il y a une vieille histoire avec le festival. Hein, rappelons-nous la première carte blanche, ils ont venu présenter plusieurs de leurs films. Enfin, vraiment, il y a une histoire d'amour. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, on s'est dit, mais on ne leur demande jamais à eux d'être président de jury. On avait envie d'un couple. On l'avait déjà fait, mais c'était l'année du Covid. Donc, c'était Vincent Leclerc et Baya Kasmi. Et donc, ça s'est fait en huis clos. Donc, le spectateur n'a pas pu vivre ça. Donc, on s'est dit, mais c'est drôle d'inviter. Alors, on a essayé de constituer autour d'eux un jury qui soit à leur image. Donc, on a invité le réalisateur Sébastien Bédé, qu'on connaît aussi beaucoup à Arras, qui est venu présenter notamment Le Voyage au Groenland, mais également d'autres films. Et deux comédiennes, alors Suzanne Debecq, dont on parle beaucoup actuellement, notamment on a beaucoup parlé en Télérama parce qu'elle a un spectacle sur les Miss Poitou là, qui fait pas mal de succès. En plus, elle est issue de l'école du Nord, du Théâtre du Nord. Et puis Lou Delage, qui est également une belle comédienne française, voilà, des comédiennes plutôt jeunes, pleines de talents et pleines de promesses. Et on a essayé de constituer une espèce de groupe un peu atypique. Voilà, qui vont se confronter à des films historiques, à des films qui parlent de choses très très graves et très sérieuses.
Alors, évidemment, dans cette 25e édition, il y a aussi Les Visions de l'Est. Alors moi, j'ai repéré Crossing Istanbul de Levan Akin.
Oui, c'est un beau film. Alors Levan Akin, il vit en Suède, en fait, mais là, il parle d'une femme qui est à la retraite, hein, une ancienne prof qui a grandi dans l'ancienne Géorgie, voilà, et qui part à la recherche de son neveu. C'est une promesse qu'elle a faite à sa sœur, et elle part à la recherche de son neveu, et ça va l'amener à Istanbul en compagnie d'un autre jeune qui est assez étonnant. Enfin voilà, c'est des rencontres improbables, et c'est un film très touchant, très émouvant, qui parle de la différence, qui parle de que l'émancipation, elle n'est pas spécialement liée à la jeunesse. C'est-à-dire qu'à 70 ans, on peut s'émanciper aussi, et c'est ce que raconte le film.
Et puis Klopka de Nadeja Kozeva également, qui fait référence évidemment à des choses qui nous concernent tous, hein, les déchets radioactifs.
Cette année, on a eu du mal à trouver des films qui parlaient de ces problèmes écologiques. Et là, celui-là, c'est en plus une réalisatrice dont on avait déjà présenté le précédent film. Et effectivement, c'est l'histoire de lutte. Il y a beaucoup de films qui parlent de lutte, en fait, dans notre sélection. Là, c'est la lutte d'un homme qui est aussi à la retraite, qui a travaillé en usine toute sa vie, qui vit dans un endroit idyllique. Et d'un seul coup, il découvre qu'on va lui mettre un certain nombre de produits radioactifs. Et donc, il va entrer en lutte contre ces puissances qui veulent imposer ça, la corruption aussi, qui est forte dans ce pays.
Dans la catégorie Vision de l'Est également, il y aura 3 films présentés, une sélection de longs métrages, donc pour découvrir le meilleur de la production tchèque. Donc là, il y aura 3 films. On va pas en parler parce qu'on peut pas tout dire, malheureusement, mais vous aurez tout, hein, auditrices et auditeurs.
Il y a beaucoup de films tchèques, hein, parce que c'est le pays invité cette année. Donc y en a un en compétition qui est absolument formidable, ça s'appelle Radio Prague, c'est un film pour vous.
Ah bah voilà.
Ah bah oui, parce que c'est la lutte.
Ah oui,
voilà,
exact.
C'est ça le titre en France. Et puis il y a un formidable film d'animation, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Qui s'appelle La vie en gros.
Ok. Oui, eh ben justement, on va y venir bientôt. On va y venir bientôt, mais d'abord, il y a les découvertes européennes également. Avec, moi, j'ai 3 focus. La jeune femme à l'aiguille de Magnus von Horn.
Ah oui, c'est un film qu'on a découvert au Festival de Cannes. Il n'y a pas eu de prix. Ça a divisé parce que c'est un film fort esthétiquement. Si vous aimez les films de David Lynch, on est dans cette ambiance-là, noir et blanc magnifique, période 19, enfin 1918. On est juste après la Première Guerre mondiale, donc il y a des histoires aussi de gueules cassées, tout. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui est fait comme, voilà, ça pourrait l'être un peu quand même. Et c'est un film d'un personnage avec des personnages forts, et c'est vraiment un cinéma très esthétique et très beau.
Puis il y aura du sport également avec Julie Sauté de Leonardo Van Doul.
Ouais, drôle de sport. Hein.
Ouais, j'allais le dire.
Le sujet du film, c'est quand on sait, c'est comment on garde quelque chose qu'on veut pas dire, en fait, qui est trop grave et qu'on veut pas dire, et comment on vit avec ça, et comment on continue à vivre avec ce nombre de choses. Puisqu'on parle d'agression sexuelle quand même en milieu sportif, donc c'est un sujet quand même à la mode. C'est pas du tout, on le voit pas, hein, cet aspect-là. Là, c'est vraiment, c'est comment je vis avec tout ça, quoi.
Et puis un auteur que j'aime beaucoup, Kafka, Le dernier été, donc de Judith Kaufmann et Georges Masse.
Oui, c'est la dernière année de vie de Kafka. Donc on découvre en fait son dernier amour. C'est une femme une jeune femme qui était très importante dans sa vie, et ses problèmes. Alors c'est moins sur l'œuvre que sur la vie familiale aussi. Ses problèmes avec sa famille. Enfin, moi j'ai découvert plein de choses sur Kafka que j'ignorais. Et c'est une plongée. Et en même temps, c'est un film qui parle de la mort, mais qui est beau, enfin, qui parle d'amour et qui donne envie. Voilà, c'est un film très, très, très joli film, en fait.
Et puis enfin, pour terminer avec ces découvertes européennes, Vingt Dieux de Louise Courvoisier. Alors ça, c'est une histoire aussi qui m'intrigue, puisque l'histoire de fromage. Hein,
Oui, c'est un problème aussi d'émancipation. Hein. C'est un gamin qui c'est un glandeur, en fait. Hein. Faut le dire honnêtement, il fait rien de sa vie. Et puis d'un jour au lendemain, il se retrouve à devoir il perd son père qui l'a élevé, et il se retrouve avec à devoir nourrir sa sœur, s'en occuper. Voilà. Et effectivement, il va se mettre dans la tête. Alors, c'est peut-être une petite crapule, hein, quelque part, pas méchant, hein, mais il va se mettre dans la tête de faire le meilleur comté du pays. Et donc, si vous voulez savoir comment on fabrique le comté,
Voilà.
il faut aller voir le film, parce que franchement, on sait après.
Catégorie cinéma du monde également, hein, une sélection de longs métrages pour découvrir d'autres cultures et approcher des problématiques du monde actuel. Alors moi j'en ai repéré deux. Le premier c'est Black Dog de Guan Hu, donc c'est un film chinois.
Oui, ça se passe dans le désert de Gobi, c'est une ville improbable, c'est après les Jeux Olympiques là, et c'est un univers un peu de fin de monde qui est envahi par les chiens errants. Donc ils cherchent, il faut capturer les chiens pour les exterminer, en fait, parce qu'ils ont envahi vraiment la région. Et c'est la rencontre entre quelqu'un qui sort de prison, qui est un peu une solitude, en fait, et puis un chien, voilà, qui lui-même est un paria. C'est deux parias qui se rencontrent. C'est un film très beau esthétiquement.
Ok. Et puis le joueur de Go également de Kazuya Shiraishi,
ah oui.
Film japonais.
Une grande découverte, hein. C'est
une première française, hein, d'ailleurs.
Oui, ça sera la première en France. Ouais. Si vous aimez les films de samouraï, les films de Kurosawa, les films, c'est un peu dans cet esprit-là, mais c'est un mélange entre Mizoguchi, Kurosawa, c'est-à-dire il y a à la fois un peu de combat, mais il y a aussi beaucoup de psychologie et un jeu, une espèce de jeu de vengeance, en fait. Voilà. Et c'est un réalisateur qui est très, très coté au Japon, mais qu'on connais pas du tout en France, et moi j'ai envie de découvrir tous ces films parce que celui-là il est vraiment très beau, et c'est du cinéma japonais comme on l'aime, quoi. Enfin, voilà, qui est une plongée au Moyen-Âge japonais de l'histoire du Japon, en fait.
Puis bien évidemment, au Racine Festival, il y a aussi une sélection d'avant-première pour les plus jeunes. On en vient donc avec ce festival des enfants. Alors moi, j'ai deux focus. On en parlera tout à l'heure de la vie en gros. Mais là, moi, un truc que je ne louperai pas, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc un film laiton d'animation de Gins Zibalodis.
Ah oui, c'est un film impressionnant, en fait. C'est quelqu'un qui travaille tout seul avec son logiciel de montage. Et là, on a un film qui est fascinant sur le plan visuel. C'est de l'animation, mais très, très, très novatrice. Et puis, ça raconte une histoire. Voilà, c'est vraiment du grand, grand cinéma d'animation. Et d'ailleurs, pas que pour les enfants. Hein. C'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pour tous les âges.
Alors, évidemment, il y a plein de choses. Mais aussi, du coup, on est en vrai. Hein. La vie en gros, donc le film d'animation de Christina Doukova.
Moi, c'est un peu mon coup de cœur, en fait, dans ce registre, parce que je me dis toujours, quand je regarde les films pour enfants, si ce film il me touche et qu'il est pour tout le monde. Et La vie en gros, il a l'intérêt d'être pour tout le monde, en fait. C'est pas du tout limité aux enfants. Et c'est l'histoire d'un gamin qui, voilà, il est mal dans sa peau, il aime bien la cuisine, donc il a tendance à manger, donc il prend, il a un peu de volume, quoi. Et donc il décide de faire régime parce qu'il a, il a rencontré une fille, il veut lui la séduire, et puis en même temps, ça parle aussi du harcèlement, parce que comme il est un peu différent, il est victime de harcèlement à l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est un film très riche, en fait, et très, très drôle, très vif, avec une très belle animation. Et c'est un roman, c'est un film tchèque, mais c'est d'après un roman d'un Français. Et l'auteur du roman viendra parler
d'accord.
Du film.
Okay.
Donc ça sera le dernier samedi, en fait, le 16 novembre.
Ah, puis il y a les rétrospectives. Évidemment, on va terminer avec ça. Donc, Amour, Perruque et Musique. Bon, alors, il y a là, il y a plein de choses également. Peut-être que tu voudrais faire un focus sur un ou deux films. Bon, moi, je connais bien, évidemment, Il Bohémo, hein, de Petr Vaclav, hein, que je connais très bien, parce qu'à chaque fois qu'il vient, on passe des soirées ensemble et on fait pas mal d'interviews. Et puis, il y a plein de bonnes choses aussi, plein de vieux films à redécouvrir ou à découvrir, peut-être.
Oui, après, c'est des grands classiques. Alors, pourquoi Amour, Perruque et Musique? Parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi le lien entre tous ces films? On s'est rendu compte que c'était ça. C'est raconte toujours des histoires d'amour, ils ont tous des perruques. Et il y a beaucoup d'histoires de musique, en fait, avec des films comme très connus, hein, comme Amadeus, qui n'est pas évident d'ailleurs à projeter en salle. Hein. On a eu l'autorisation du producteur américain pour l'occasion. Barry Lyndon, qui même si ce n'est pas un film sur la musique est capitale dans le film. On a choisi par exemple Valmont, qui est l'autre adaptation des Liaisons dangereuses, puisqu'on a souvent passé dans le festival le film de Friert, ce qu'on aime beaucoup. Mmh. Mais on oublie que Forman a fait aussi une version qui est très différente d'ailleurs et qui n'est pas non moins intéressante. Donc on, voilà. Et puis il y aura beaucoup de grands moments, genre Farinelli avec des copies restaurées. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Et puis il y a des liens en fait avec Cécile de France, il y a le film Manuel Jonquière qui parle aussi de cette époque. On a une avant-première, c'est le déluge et les derniers jours de Marie-Antoinette et Louis XVI à la prison du Temple. Enfin voililà, il y a plein de liens comme ça qui sont dans toute la programmation autour de ce 18e siècle, puisque on ne l'a pas dit, mais ça parle du 18e siècle à l'écran. Donc là, entre la mort de Louis XIV et la Révolution française, alors on n'a pas trop poussé sur la Révolution française parce qu'on l'a déjà faite dans le cadre du festival, mais en tout cas c'est toute la période Louis XV ou début du règne Louis XVI quoi.
Et puis deuxième rétrospective, Il était une fois la Yougoslavie, donc là il y a pas mal de choses aussi à découvrir ou à redécouvrir.
Oui, alors c'est parti aussi de trois films, hein. Au début on pensait faire pas grand chose et puis ça a pris du volume parce qu'on a découvert des tas d'œuvres. Alors on peut pas en présenter beaucoup, mais grâce aux Serbes et aux Slovènes on a réussi à dégoter des pépites. Par exemple, on a un film slovène qui raconte l'histoire de travailleurs immigrés. Alors, on ne s'imaginait pas dans la Yougoslavie de Tito, mais qui viennent de Bosnie, qui viennent travailler en Slovénie, qui est un pays beaucoup plus riche. Et il y a un racisme fort, déjà. Et on voit un peu les germes de ce qui va faire les futures guerres des Balkans, en fait. Et c'est un film très beau esthétiquement. Il y a des histoires de jeunes. Enfin, c'est ça qui nous intéressait, c'est de savoir qu'est-ce que c'était d'être un enfant à cette époque, qu'est-ce que c'était d'être un jeune, comment une femme elle avait pu vivre. Il y a l'histoire de Petria, par exemple, qui raconte tout le destin d'une femme sur un certain nombre d'années. Enfin, c'est ça qui nous intéressait. Et au final, une belle rétro. Quoi.
Il y a des séances spéciales aussi, avec un petit focus rapidement, on va pas tout dire, mais Histoire de lutte pour la liberté, donc en lien avec le festival Monstra de Lisbonne. Tu peux nous en...
Oui, c'est lié à la Révolution des œillets. Donc, ils nous ont concocté un petit programme de films d'animation qui sont des vraies perles, raconte un peu à la fois la période colonialiste et les guerres d'indépendance qu'a vécu le Portugal, les oppressions aussi, enfin la dictature, enfin tout cet aspect-là qui est abordé à travers quelques très beaux courts-métrages d'animation. Voilà. Et je voulais aussi parler du garçon, je sais pas si...
Ah oui,
on aura tendance à l'oublier, on l'a mis un peu en séance.
Ah oui, c'est Zabou Breitman.
Oui, c'est Zabou Breitman, notamment, et qui a co-réalisé ce film, qui sera présent d'ailleurs pour en parler, parce que c'est un projet rare, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup de documentaires. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un documentaire, c'est moitié documentaire, moitié fiction.
Ouais,
mais ça part d'un personnage réel, en fait, imaginez, on prend un paquet de photos, on en sort une, on dit mais c'est qui lui, et à partir de là ils ont fait une enquête et ils ont essayé de savoir qui était ce personnage lié à cette photo, et on tire petit à petit des fils et c'est vraiment passionnant.
D'ailleurs, co-réalisé avec Florent Vassaux,
oui, qui seront là tous les deux, en fait.
Il y a eu un beau casting, hein, Isabelle Nanty, François Berléand, Damien Sobiraf et Nicolas Avinet.
Voilà, ça c'est la partie fiction, en fait, ouais. Parce qu'il mélange la partie documentaire à la partie fiction.
Ciné-concert On va peut-être un petit mot quand même à Gagliostro, toujours avec Jacques Cambrin, hein, qui est un fidèle du Arras Film Festival, et puis La Princesse aux Huîtres. Alors, je ne connaissais pas ça.
Voilà, il est artiste associé, en fait. Et donc, chaque ciné-concert, c'est des jeunes musiciens du conservatoire qui accompagnent le film. C'est vrai qu'il les fait travailler en amont du festival et qui prépare un accompagnement. Donc, il y a deux niveaux maintenant, effectivement. Et là, c'est effectivement deux pépites du cinéma muet. Le premier, la princesse aux huîtres, tu connais pas, mais c'est Ernst Lubitsch, tu connais.
Oui, voilà, le réalisateur me disait quelque chose, mais voilà, ce film...
Ernst Lubitsch, c'est un de ses premiers films phares. On a déjà tout le cinéma de Lubitsch qui va développer aux États-Unis, qui va en faire ses chefs-d'œuvre dans les années 30, avec la question de la mise en scène, des portes. Voilà, c'est un film qui est assez euphorisant, en fait. Qui dure qu'une heure, mais qui donne la pêche et qui est très drôle. Et qui est très amusant.
Et puis, on rappelle également qu'il y aura les afters musicaux, donc du samedi 9 novembre jusqu'au vendredi 15 novembre. Et ça se passe évidemment au village du festival, comme d'habitude, vers 23h.
Oui, c'est ça.
À peu près.
C'est ça.
Donc, on vous laisse évidemment, auditrices et auditeurs, découvrir un peu tous les groupes qui seront présents. Les infos pratiques, on va rappeler quand même, si la billetterie est déjà en ligne, j'imagine.
Oui,
comment
oui,
on fait, comme d'habitude.
Oui, on peut acheter en ligne, on peut tout acheter d'ailleurs en ligne, on peut venir au Megarama où il y a une caisse toute la journée. Il y a plusieurs façons de venir au festival d'ailleurs, il y a plusieurs façons. On peut acheter un billet, venir voir un film si le cœur en dit. Après, il y a des passes, hein, des passes 5 films, des abonnements 5 films, 10 films. Il y a un pass général à 70 euros qui permet de venir tout le temps au cinéma. Il y en a qui en profitent bien et ils ont raison. Parce que c'est la meilleure façon de découvrir beaucoup de choses, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui prennent des congés ou qui viennent découvrir les films. Voilà, donc il y en a pour toutes les bourses. On n'a pas augmenté les tarifs, c'était volontaire cette année, parce qu'on tire un peu la corde de partout. Et nous, on a réussi de maintenir. Bon, je ne promets pas qu'on restera sur ces tarifs, mais en tout cas, pour le 25e, on voulait symboliquement rester sur les tarifs habituels.
Eh ben, merci Eric donc, d'être passé dans les studios pour dévoiler un petit peu, pas toute la programmation, c'est frustrant, mais il y a plein de choses. Mais bon, on laisse les auditrices, auditeurs et les spectatrices et les spectateurs découvrir le programme qui est disponible aussi
un
petit peu partout.
Oui, il est en ligne ou disponible aussi. Ouais.
Et puis on souhaite à toute l'équipe de Plan Séquence un bon 25e anniversaire, une bonne 25e édition donc, du Arras Film Festival.
Merci et merci de ton accueil Boris et merci à toute l'équipe de PFM de nous accompagner pendant tout ce festival.
À bientôt sur le Arras Film Festival.